Documentaire, reportage.
Un podcast proposé par Regards Protestants.
Shauna from Cap 2, and I just want to come on here and say Henry is a racist, stinky prick. Giovanna is racist. Elias is a prick of a manager. This company fires black associates for no reason. This company treats their employees like shit. I fucking quit.
Hey, Sandy?
Yes.
I quit. You're a bitch for talking to Mary the way you have and been treating us.
Dans ces vidéos virales filmées en pleine épidémie Covid, ces salariés américains dénoncent ce qui ne va pas dans leur entreprise. C'est une prise de conscience que leur santé mentale passe avant tout. Aux États-Unis, 21 millions de personnes ont ainsi quitté leur emploi entre juin 2020 et juin 2021. Mais la France aussi fait face depuis plusieurs années à la souffrance au travail. Un procès a fait date, celui de France Télécom, en 2019. Après une vague de 36 suicides, l'entreprise, son PDG et plusieurs cadres sont condamnés. Le réquisitoire parle de harcèlement managérial. Depuis, quelles sont les réponses des entreprises ?
C'est toute cette stratégie de la bienveillance, de l'humanisation avec les Chief Happiness Officers qui sont là pour veiller au bien-être matériel, physique et mental des salariés. Bon, vous savez, c'est les séances de massage, de méditation, les manières de coucouner les salariés pour leur envoyer des messages comme quoi on les aime beaucoup et on prend à cœur leur bien-être.
Je ne pense pas qu'il y ait eu de réelle évolution. Il peut y avoir des discours. Mais néanmoins, à un moment donné, le manager voudra obtenir, le faire agir auprès de ses équipes qui va lui permettre d'être reconnu en tant que manager. Alors ça va effectivement du billard à tout un tas de choses qui vont être apportées dans l'entreprise. En fait, on souhaiterait vouloir compenser une forme de dureté au travail par des effets plus adoucissants. Mais en réalité, comme nous le dit Simone Veil, la philosophe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure opportunité de se réaliser qu'à travers son travail.
Des réponses périphériques qui pointent du doigt les faiblesses des salariés au lieu de s'attaquer au cœur du problème, en l'occurrence l'impact de l'organisation du travail.
Cette idée que pour gagner sa vie, pour contribuer à la pérennisation de la société, lorsqu'on engage son temps, lorsqu'on engage ses capacités, sa force de travail, ses compétences, on doit passer nécessairement par l'acceptation d'une subordination a priori totale envers sa hiérarchie et sa direction, c'est quelque chose qui relève de l'archaïsme. L'intelligence collective est d'abord anesthésiée par cette subordination collective, et puis l'intelligence individuelle l'est encore plus, puisque cette subordination, elle est ressentie, elle est vécue sur un mode extrêmement individualisé, où chacun a l'impression de ne pas avoir des ressources pour la combattre.
On pourrait dire qu'il y a une espèce de pacte avec la technique, c'est qu'on veut bien utiliser la technique, why not, mais sous condition que la technique soit à notre service. Et donc là, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est-à-dire que le professionnel se trouve sous la coupe d'un robot, de ce qu'on appelle une intelligence artificielle, quoi. Voilà. Ou de différents critères qui viennent de l'extérieur.
Atelier 20, plus vite, 4-1. Chef d'équipe, attention! Il y a des ennuis sur la chaîne 20. J'aperçois un écrou mal serré. Chef d'équipe, attention!
L'ingénieur Taylor, quand il invente le taylorisme, c'est-à-dire l'organisation soi-disant scientifique du travail, fin 19e, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va déposséder. Il y a l'ingénieur, parce que lui est ingénieur, et donc en fait, presque on peut en faire une histoire, c'est que l'ingénieur va faire le tour des différents ateliers pour demander à chaque ouvrier comment il s'y prend dans son travail. Et ensuite, l'ingénieur va récolter tout ça et va en déduire tout seul dans son laboratoire l'idée, le process idéal.
Et vous vous trouvez piégé entre d'un côté une sollicitation, montrez-nous qui vous êtes, réalisez-vous, soyez intuitif, réactif, soyez résilients, etc., etc. Et de l'autre côté, cette espèce de piège, parce que vous êtes enfermé, anesthésié par toute une gamme de protocoles, une fois de plus de process, de méthodologies que vous êtes semé de réaliser et d'appliquer, et vous êtes contrôlé. Donc il y a, disons que le travail, bien qu'il ait été présenté comme post-taylorien, non-taylorien, il est largement inspiré de la logique taylorienne.
Le grand paradoxe que l'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on demande de plus en plus à un salarié de savoir-être, d'avoir d'aller se former sur des soft skills, etc., au détriment de son expertise, alors que c'est l'expertise et c'est son métier qui lui permet d'être dans la pleine puissance d'être et la réalisation de soi à travers son métier. Et donc là, on marche effectivement probablement un peu sur la tête de vouloir amener l'individu à se comporter de telle ou telle façon, alors qu'au final, il ne sera jamais aussi performant que lorsqu'il sera débridé, qu'il aura effectivement la possibilité d'être dans la réalisation de son ouvrage sur la base d'une bonne expertise.
Moi, j'observe que depuis quelques années, peut-être 4-5 ans, de plus en plus de revendications dans les mouvements sociaux, elles portent pas tellement sur ces aspects matériels, elles portent beaucoup plus sur une demande de reconnaissance. Par exemple, il y a 3 ans, je crois, il y a eu des grèves des professionnels des maisons de retraite, des EHPAD. Et qu'est-ce qu'ils demandaient? Même pas d'augmentation de salaire, ils demandaient « laissez-nous travailler, quoi. On n'a pas le temps, dans les conditions que vous nous imposez, de faire du travail bien fait. »
Il y a une relation qui est très infantilisée dans le monde de l'entreprise. En fait, la directive, c'est quoi? C'est avoir une relation en fait, de parents-enfants, hein, dans laquelle on cherche à obtenir une forme de soumission du salarié, et dans laquelle en fait, il n'a de choix. Il n'a que deux choix, c'est soit se soumettre, soit se rebeller. Nous sommes dans une vision managériale depuis des décennies, dans laquelle est valorisé le fait que le manager apporte de la reconnaissance. Mais ce faisant, il oblige l'individu à orienter son action pour bénéficier de cette reconnaissance. Et on arrive au final, effectivement, à un manque de maturité. La maturité étant de vouloir laisser l'individu être dans la pleine puissance d'agir sur le vrai sens de son travail.
Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe...
Ces derniers temps, le télétravail a ainsi été perçu comme une échappatoire. Pourtant, il n'y a pas que du positif. Gaëtan est développeur web, il a travaillé seul dans sa chambre durant 1 an et demi. Il n'a toujours pas rencontré tous ses collègues et ne communique presque que par mail.
C'est vrai qu'au début, pendant les 3 premiers mois, j'avais l'impression d'être comme une machine dans ma chambre à travailler, quoi. La journée, je vois globalement personne en fait. Alors c'est vrai que c'est ça qui est peut-être le plus difficile et qui me manque le plus. Par rapport à un job en présentiel. Avant, quand j'étais dans mon autre coloc, il m'arrivait, dans certains temps pendant le Covid, de ne voir personne, même le soir. Je vais avoir par semaine une visio de 30 minutes avec mon équipe, où globalement, ça va être le product manager, donc celui qui globalement définit les lignes du produit pour notre équipe. Et après, sinon, j'ai pas d'autres points avec ni l'équipe, ni d'autres personnes dans la semaine. Pour moi, c'est plus possible de rester 100% en télétravail sans voir personne, parce qu'on perd complètement le sentiment d'appartenance à un groupe, et on perd aussi le sentiment d'appartenance à la société, parce qu'on reste enfermé dans nos 4 murs à coder globalement. Donc. Peut-être aussi le fait que je viens de province, donc je connais moins de monde à Paris. Et le travail, c'est une bonne porte d'entrée en fait pour connaître, se faire un réseau au sein de Paris. Surtout quand il n'y a plus que ça en fait comme moyen de connaître des personnes. J'ai l'impression que ça a renforcé l'importance du travail, mais à la fois ça m'en a un peu dégoûté parce que il y a plein de moments où je me rendais compte que si je travaillais pas un jour, ça changeait pas la face de la Terre, mais on va dire que finalement, j'avais un peu l'impression d'être un petit pion sur un grand échiquier et servir à pas grand chose.
Il y a une fonction instrumentale du travail, donc on utilise le travail comme un outil pour gagner sa croûte et donc pour avoir de quoi manger, se nourrir, etc. Et après, il y a une fonction qu'ils appellent expressive, c'est-à-dire qu'il y a du sens. Donc, ça a du sens pour moi de travailler. Pourquoi? Alors, parce que ça me donne une place dans la société, ça m'inclut. Parce que ça me donne une utilité. parce que c'est quelque chose qui va avoir du sens pour moi. Notamment, ça donne une distinction que je trouve très intéressante par rapport à la notion de rémunération. C'est qu'il peut y avoir une rémunération extrinsèque et intrinsèque. Ça veut dire que, extrinsèque, je travaille et qu'est-ce que j'en attends ? Un salaire, quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc ça, c'est la rémunération classique. Ben, évidemment, voilà, tout travail mérite salaire. Et du coup, on ne pense pas à la gratification que peut m'apporter le travail lui-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rémunération intrinsèque. Le fait même de mener telle activité me fait plaisir, m'intéresse, me passionne, me façonne en même temps. Et donc là, on a, je dirais, en bout de course, la pointe de l'idée, c'est que nous avons tous plus ou moins l'intuition que ce que nous faisons nous fait.
La souffrance au travail est liée aux maux de notre société. Le chômage, l'individualisme, le culte de la performance, une situation encore aggravée quand le salarié ne trouve pas de sens à son travail. Vanille fait partie de ces salariés qui ont sauté le pas. Mi-2020, elle a quitté son poste de chargée de communication dans un grand groupe d'intérim pour se réorienter vers le développement durable.
Je ne me retrouvais pas forcément dans mes valeurs et dans mon activité professionnelle. Et du coup, j'ai vraiment... Enfin, à un moment, je me suis dit, il me reste quand même plus de 30 ans à travailler. Il va vraiment falloir que je trouve quelque chose qui me fasse me lever le matin. Je suis très sensible aux enjeux environnementaux. Je l'ai toujours été. J'essaye, en tout cas au sein de mon foyer, d'essayer de consommer de manière responsable, d'avoir un comportement, une consommation qui aille dans ce sens, hein, dans le sens des enjeux climatiques et écologiques auxquels on fait face aujourd'hui. Et ça prenait une part de plus en plus importante. Et pour aller plus loin, je me suis dit que ça serait aussi bien que je m'investisse dans ma vie professionnelle dans ce secteur-là.
Dans un vrai projet d'entreprise avec des vraies valeurs sur lesquelles les salariés se retrouvent, l'individu va vraiment commencer à imaginer qu'il puisse avoir une contribution dans l'œuvre globale de l'entreprise. Et c'est là qu'on a la possibilité de lui offrir la meilleure chose qu'on puisse offrir à un individu, c'est se réaliser dans la vie, au final, à travers effectivement une utilité, un rôle social, hein, et un travail dans lequel il va trouver effectivement une certaine fierté.
Il y a un grand texte qui est très, très connu pour les gens qui travaillent sur la question du travail, c'est le livre de Hannah Arendt qui s'appelle « Condition de l'homme moderne ». Et justement, elle part de la catégorie travail et elle l'éclate en trois. Elle dit, il y a d'un côté ce qu'elle appelle « animal laborance », donc vraiment « animal ». Donc, en prenant le latin, donc, c'est l'animal qui travaille. Et pourquoi ? Parce qu'elle a en tête la conception antique grecque du travail, qui considère que le travail est très dévalorisant, c'est une activité bestiale, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour les esclaves. Donc animal laborance, c'est en fait ce qui nous rapproche le plus de la condition animale, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on bosse pour avoir de quoi manger. C'est le travail bon, purement utilitaire, alimentaire. Et puis la deuxième catégorie, c'est ce qu'elle appelle l'homo faber, donc l'homme qui fabrique. Et donc, qu'est-ce qu'il fabrique ? Eh bien, elle appelle ça l'œuvre. Et justement, autant le labeur est quelque chose qui va se reproduire cycliquement tous les jours, une fois que j'ai gagné ma croûte pour manger le soir, le lendemain matin, je recommence. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui est perpétuellement mourant. En fait, c'est une temporalité cyclique, comme ça, qui tourne en rond. Alors que l'œuvre, la caractéristique de l'œuvre, c'est qu'elle laisse des traces. L'œuvre, ça peut être aussi bien l'œuvre littéraire, l'œuvre artistique, l'œuvre d'un architecte, tout ce que nous laissons après notre activité, et qui en fait, la caractéristique, c'est que ça va durer plus longtemps que son auteur. Et puis la troisième catégorie, qu'elle valorise, elle appelle ça l'action. Et l'action, c'est, elle l'attribue, à mon avis, c'est restrictif, plutôt à la catégorie du politique. C'est l'homme, la femme politique qui prend une initiative, qui se révèle, qui se lève, et qui propose une orientation qui n'était prescrite par rien, quoi. C'est vraiment une initiative propre, quelque chose d'inventif. Comme l'action est fragile, on a tendance, je dirais on, un peu tout le monde, à se reporter sur la temporalité de l'homo faber. On va faire du solide, on va faire du durable, on va faire dans le dur. Il y a une seule personne qui invente, c'est la personne qui invente la procédure, et ensuite tous les autres sont transformés en exécutants. C'est-à-dire que ça se répercute comme un château de cartes, c'est que tout le monde se retrouve dans la posture de l'animal laborance, parce qu'il n'a aucune initiative à prendre, il fait les choses uniquement parce que c'est obligatoire. Parce qu'il n'a pas d'autre choix.
Parfois, je me demandais, mais pourquoi en fait je me mets dans cet état-là de pression, de vouloir faire bien les choses. En fait, j'aurais aimé finalement trouver un secteur, un projet, une équipe dans laquelle je peux mettre toute cette énergie, mais de manière positive, et que finalement, ça me serve aussi à moi et pas que à l'entreprise, que, voilà, que j'arrive à concilier les deux.
Ce que demande l'entreprise, c'est avoir une performance collective qui lui permet effectivement d'avoir une rentabilité suffisante pour pouvoir remplir ses différents engagements, d'assumer sa croissance et en même temps de rémunérer effectivement ses actionnaires. Donc les deux sont tout à fait conciliables, puisque la performance individuelle que va amener une certaine maturité de l'entreprise va pouvoir permettre effectivement une performance collective. Parce que si vous regardez l'exemple du sport, un individu n'est jamais aussi heureux que lorsque son équipe gagne et sa joie sera d'autant plus forte que lui-même aura une perception de contribution forte à ce succès.
Donc l'idée, ce serait de dire, malgré tout, nous avons une marge de manœuvre. Ça suppose, me semble-t-il, alors de chercher ce que j'appelle un management par la recherche du consentement. C'est-à-dire qu'on puisse... et ça, c'est quelque chose que moi, je peux tout à fait enraciner dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 13, qui dit, alors ça c'est pas du tout un management, parce qu'évidemment ça n'existe pas à l'époque, mais c'est par rapport au magistrat. Dire, et donc lui, dans ce texte-là, Paul invite à obéir au magistrat, parce qu'il appelle par motif de conscience. Ça veut dire obéir parce que j'y crois, parce que je suis d'accord, parce que j'approuve. Donc, et non pas obéir parce que c'est le chef et que j'ai pas le choix, ou parce qu'il est plus fort que moi.
C'était Documentaire Reportage,
un podcast de Regards Protestants.